Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. WCF 2016 a produit une déclaration de Bali. Déclaration de Bali sera suivie immédiatement. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple soutient l'intensification des relations entre l'Indonésie et Taïwan. Selon le président Joko Widodo, l'Indonésie n'ignore plus la mer. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple a demandé au gouvernement de revoir la politique d'exemption de visa. Le gouvernement va interdire les exportations de minerais de nickel brut et la bauxite. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Après avoir effectué une série d'activités et de réunions, le Forum culturel mondial ou WCF en 2016 a finalement produit la déclaration de Bali, qui est l'engagement des participants du forum de renforcer les efforts de l'intégration de la culture en tant que moteur de développement durable. Le président du comité du Forum culturel mondial, M. Ananto Kusuma Seta, lors de la lecture de la déclaration de Bali, a déclaré que la déclaration de Bali rappelait la promesse de Bali comme le résultat de WCF en 2013, qui met en évidence la culture comme dimension de développement durable. Ananto a également mentionné que le Forum culturel mondial sera une fondation permanente pour promouvoir le rôle de la culture dans le développement durable. Réitérant le Forum culturel mondial en tant que plateforme permanente pour la promotion du rôle de la culture dans le développement durable et la sauvegarde de la diversité culturelle et linguistique de l'humanité. Selon Ananto Kusuma Seta, la déclaration de Bali souligne que les politiques fondées sur la culture produiraient le développement durable, inclusif, équitable et mieux. La déclaration de Bali a également reconnu la contribution importante des ressources culturelles, soit matérielles ou immatérielles, ainsi que de reconnaître l'intégration de la culture dans les aspects du développement durable. En outre, selon Ananta, la déclaration de Bali souligne également la nécessité d'assurer une intégration culturelle plus efficace dans les politiques de développement économique, social et environnemental à tous les niveaux. Le président du comité du Forum culturel mondial ou WCF 2016, M. Ananto Kusuma Seta, après avoir lu la déclaration de Bali comme résultat de cette réunion, a déclaré jeudi que tous les participants du forum prendront des mesures pour apporter la déclaration de Bali à l'Assemblée générale de l'ONU. Selon lui, c'est une conséquence logique de la mise en place de la déclaration de Bali. Donc, la déclaration sera apportée à l'Organisation des Nations Unies, à adopter et à devenir le document du monde. Nous allons lancer des mesures à prendre. La déclaration n'est pas pour être lue, mais elle doit être suivie. Anato Kusumaseta a expliqué que le janvier 2017 deviendra le début d'une nouvelle action de la réunion de WCF 2016. Il a dit que le ministère de l'Éducation et de la Culture, ainsi que tous les participants de WCF 2016, formuleront des actions concrètes de WCF 2016. L'une d'entre eux est de mettre la culture en tant que première ligne pour le développement durable. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, de l'Indonésie, M. Hidayat Nur Wahid, soutient le désir de Taïwan qui a été présenté par Ismail Mai, directeur de la division de l'information du Bureau de commerce et de l'économie de Taïwan pour intensifier les relations avec l'Indonésie. Hidayat Nur Wahid a affirmé jeudi au complexe du Parlement de Jakarta, bien que les deux pays n'est pas encore de relations diplomatiques directes, mais l'Indonésie possède un bureau d'attaché commercial à Taïwan. Pendant la réunion, Ismail Mai espère que les relations entre les deux nations pourraient être renforcées par divers moyens et de maximiser le potentiel existant. En outre, Ismail Mai a déclaré que l'Indonésie était un marché énorme en Asie, avec la majorité des musulmans. Taïwan pourrait utiliser une nouvelle façon de se rapprocher de l'Indonésie suite au nouveau gouvernement. Sous la nouvelle présidente, Taïwan veut renforcer les relations avec les pays d'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré jeudi, cité par Antara, que l'Indonésie ne peut ignorer le secteur maritime par le développement des infrastructures de transport et de faire la conservation des ressources naturelles. La construction des grands ports et des ports maritimes sont déjà commencées pour le transport individuel et la logistique. Selon le président, le gouvernement n'oublie pas le développement des infrastructures de transport dans les zones rurales comme en Papouasie, qui commence à construire le port à Sorong à la fin de 2016. Selon le président Joko Widodo, le programme de l'autoroute de la mer pour le transport a déjà un horaire fixe, avec l'armada qui continue à ajouter. L'autoroute de la mer facilitera la circulation des personnes et de la logistique, et aussi pour faire baisser les prix de nécessités quotidiennes. Le vice-président de l'Assemblée consultative indonésienne, M. Hidayat Nur Wahid, demande au gouvernement de revoir le décret présidentiel numéro 21 l'année 2016 sur le visa gratuit parce qu'il a un impact négatif sur la sécurité, l'économie et la culture dans le pays. Hidayat Nur Wahid a souligné jeudi à Jakarta que la politique de visite sans visa vers l'Indonésie pour 169 pays non pas réciproque, parce que les gens de l'Indonésie devaient faire un visa s'ils visiteraient un autre pays qui obtient un visa gratuit pour venir en Indonésie. Il espère que le gouvernement peut faire un moratoire tout en évaluant la politique d'exemption de visa. Selon lui, la politique d'exemption de visa est en mesure d'apporter beaucoup de touristes, mais ceux qui visitent seulement les routards. Le ministre par intérim de l'énergie et des ressources minérales, M. Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le gouvernement interdirait l'exportation de minerais de nickel brut. On peut exporter si les droits d'exportation sont augmentés et la société minière construit une fonderie. Selon Luhut Binsar Panjaitan, le gouvernement est en train d'étudier en détail. La politique de la relaxation de l'exportation des grains bruts ne peut pas être appliquée sur tous les articles, mais il doit être par type et voir l'état de la disponibilité en Indonésie. Actuellement, l'Indonésie a un rôle important dans le contrôle du prix du nickel dans le monde. L'investissement du nickel atteint 5 milliards de dollars américains. L'Indonésie a la capacité de produire du nickel dérivé pour former l'acier inoxydable. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, le roi thaïlandais Bhumibol Adulyadej est décédé. Les Thaïlandais sont en deuil parce que leur honneur roi Bhumibol Adulyadej est décédé. Un certain nombre de chefs d'État, y compris l'Indonésie, ont présenté des condoléances. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lors de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, a expressément demandé à tous les participants de faire ses condoléances. Le roi Bhumibol Adulyadej est aussi connu comme le roi Rama IX et décédé à l'âge de 88 ans dans un hôpital de Bangkok après avoir été traité quelques jours. Il a pris le trône remplaçant son frère aîné, King Rama VIII, quand il avait 19 ans. Comme le 19e roi de Thaïlande, le défunt de Bhumibol Adulyadej était un roi des plus longs règnes. Il n'y a pas de roi, reine ou empereur qui règne pendant 77 ans. Jusqu'à sa mort, il n'y avait aucune tentative de le remplacer et même de le renverser. Les gens et toute personne au pouvoir en devenant premier ministre de la Thaïlande le respectent. Pendant son règne comme roi, il a été le témoin de 10 coups d'État contre le gouvernement. À cet égard, le roi est apparu comme un artisan de la paix, de sorte que son paix n'est pas dans le chaos si longtemps. Le défunt de roi Bhumibol Adulyadej, qui s'est marié une fois avec la reine Sirikit, était un symbole de stabilité thaïlandaise qui est vulnérable d'être frappé par des conflits politiques. La question est que celui qui va lui succéder en tant que roi est capable de continuer son charisme, le prestige et la figure comme le père de la nation Thaï. Au cours de sa vie, Bhumibol Adulyadej a nommé son fils Mahafajiralongkorn, 64 ans, en tant que successeur. Mahafajiralongkorn est préparé par son père pour être le successeur au trône. Immédiatement après la mort de Bhumibol Adulyadej, le premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a annoncé que Mahafajiralongkorn sera sûrement le prochain roi de la Thaïlande. Le premier ministre Prayut a souligné que le gouvernement, selon le mandat du défunt roi Bhumibol, continuera la succession. Le processus de succession est attendu avec une grande espérance que Mahafajiralongkorn, comme le prochain roi de Thaïlande, est en mesure de jouer un rôle majeur comme son père qui était en mesure d'unifier et de maintenir la stabilité de la Thaïlande. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui. Le 14 octobre 1918, la Tchécoslovaquie devient une république. La Tchécoslovaquie a proclamé l'indépendance au 28 octobre 1918. Ce pays composé de l'ethnie tchèque et slovaquie qui, au 9e siècle, formait un empire conjoint. Avec l'effondrement de cet empire, les ethnies tchèques et la Slovaquie étaient sous la domination de l'Empire austro-hongrois. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois était défait et son territoire était fragmenté. La nation de Tchèque et la Slovaque ont établi un État commun en 1918. Dans la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie est tombée aux mains des Allemands. L'Allemagne et la Pologne ont formé ce pays comme un état de marionnette pour garder ses armes dans sa tentative de vaincre la Russie. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie est devenue un pays libre sous l'influence de la Russie dans son administration. Mais après la guerre froide, a pris fin le 14 octobre 1918, la Tchécoslovaquie a transformé un gouvernement en une forme républicaine. Le 14 octobre 1981, Hosni Moubarak était devenu président de l'Égypte une semaine après l'assassinat d'Anwar el-Sadat. Mohamed Hosni Moubarak, ou mieux connu comme Hosni Moubarak, était le président de l'Égypte. Moubarak a été président au cours de la période allant du 14 octobre 1981 jusqu'au 11 février 2011. Moubarak a nommé comme vice-président en 1975 après son grade a augmenté dans les rangs de l'armée de l'air égyptienne. Plus tard, il est devenu président pour succéder le président Anwar el-Sadat qui a été tué le 6 octobre 1981 par des groupes radicaux. Moubarak est le quatrième président de l'Égypte pour une durée de plus de 15 ans depuis sa prise de fonction en 1981. En tant que président de l'Égypte, il était considéré comme chef de file le plus puissant dans la région. Il a démissionné le 11 février 2011 à la suite d'une manifestation massive pendant 18 jours en 2011. Le 2 juin 2012, il a été condamné à l'emprisonnement à vie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis longtemps, voici donc la mise au point ayant pour le titre « La 31e exposition commerciale indonésienne est ouverte officiellement ». Le gouvernement indonésien via le ministère du Commerce organise à nouveau la 31e exposition commerciale d'Indonésie TEI 2016 tenue du 12 au 16 octobre et a été ouverte officiellement par le président Joko Widodo à Jakarta International Expo Kemayoran mercredi. Un certain nombre d'épées ont envoyé des délégations en grand nombre, y compris en provenance du Nigeria, la Malaisie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Bangladesh. En plus d'exposer des produits de qualité supérieure en Indonésie, TEI 2016 est également un élan pour les hommes d'affaires nationaux et étrangers pour obtenir divers produits excellents et est une place d'échanger des informations sur les produits fabriqués en Indonésie. Le président Joko Widodo, après l'ouverture de TEI 2016, a affirmé que les exportateurs indonésiens devaient être courageux de pénétrer les nouveaux marchés comme les pays africains et l'Inde. Le président a demandé aux exportateurs de prêter attention au Bangladesh, les pays d'Amérique latine ainsi que l'Irak dans la commercialisation de produits. Le président Joko Widodo a rappelé que les producteurs prêtent attention à la conception et à l'emballage des produits qui seront exportés. Selon le président, la conception, l'emballage sont importants d'entrer sur le marché d'exportation. À cette occasion, le président apprécie les efforts du ministère du Commerce et de l'Agence de l'économie créative qui ont envoyé la conception et l'emballage des produits aux producteurs dans la région. À cette occasion, le président a également remis le prix de Prima Duta et le prix de Prima Niarta à 30 des meilleurs exportateurs indonésiens. Pendant ce temps, le ministre du Commerce, Enger Tias Tolukita, dans un discours de la 30e et 1e exportation commerciale d'Indonésie à Jakarta, mercredi le 12 octobre 2016, a déclaré que malgré la croissance de l'économie mondiale d'aujourd'hui et les années à venir se ralentit, la concurrence commerciale est très stricte de plus en plus. Même certains pays continuent à faire des efforts pour faire face aux pactes commerciaux ou les règles des organisations internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, OMC, pour gagner la concurrence commerciale. Enger Tias Tolukita a affirmé que l'exportation à l'échelle internationale TEI 2016 est considérée comme capable d'ouvrir la possibilité de gagner les nouveaux marchés d'exportation pour les petites et moyennes industries ou PME dans le pays. Air Langa encourage aussi les entrepreneurs de PME à innover tant en termes de produits et de la stratégie pour gagner les nouveaux marchés d'exportation. Selon lui, TEI 2016 a obtenu l'engagement de transactions d'un montant de 2,4 milliards roupias provenant de 120 pays. Le nombre d'acheteurs qui ont confirmé la participation atteint 15 662 acheteurs de 120 pays. Pendant ce temps, le nombre de participants qui suit une série d'événements de TEI 2016 atteint 1100 participants. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Après avoir effectué une série d'activités et de réunions, le Forum culturel mondial ou WCF en 2016 a finalement produit la déclaration de Bali que l'engagement des participants du Forum de renforcer les efforts de l'intégration de la culture en tant que moteur de développement durable. Le président du comité du Forum culturel mondial, M. Ananto Kusuma Seta, lors de la lecture de la déclaration de Bali, a déclaré que la déclaration de Bali rappelait la promesse de Bali comme le résultat de WCF en 2013, qui met en évidence la culture comme dimension de développement durable. Ananto a également mentionné que le Forum culturel mondial sera une fondation permanent pour promouvoir le rôle de la culture dans le développement durable. Réitérant le Forum culturel mondial en tant que plateforme permanente pour la promotion du rôle de la culture dans le développement durable et la sauvegarde de la diversité culturelle et linguistique de l'humanité. Selon Ananto Kusuma Seta, la déclaration de Bali souligne que les politiques fondées sur la culture produirait le développement durable, inclusif, équitable et mieux. La déclaration de Bali a également reconnu la contribution importante des ressources culturelles, soit matérielles ou immatérielles, ainsi que de reconnaître l'intégration de la culture dans les aspects du développement durable. En outre, selon Ananta, la déclaration de Bali souligne également la nécessité d'assurer une intégration culturelle plus efficace dans les politiques de développement économique, social et environnemental à tous les niveaux. Le président du comité du Forum culturel mondial ou WCF 2016, M. Ananto Kusuma Seta, après avoir lu la déclaration de Bali comme résultat de cette réunion, a déclaré jeudi que tous les participants du Forum prendront des mesures pour apporter la déclaration de Bali à l'Assemblée générale de l'ONU. Selon lui, c'est une conséquence logique de la mise en place de la déclaration de Bali.
Jadi deklarasi ini akan kita proses.
Donc, la déclaration sera apportée à l'Organisation des Nations Unies, à adopter et à devenir le document du monde. Nous allons lancer des mesures à prendre. La déclaration n'est pas pour être lue, mais elle doit être suivie. Ananto Kusuma Seta a expliqué que le janvier 2017 deviendra le début de nouvelles actions de la réunion de WCF 2016. Il a dit que le ministère de l'Éducation et de la Culture, ainsi que tous les participants de WCF 2016 formuleront des actions concrètes de WCF 2016. L'une d'entre eux est de mettre la culture en tant que première ligne pour le développement durable. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, de l'Indonésie, M. Hidayat Nur Wahid, soutient le désir de Taïwan qui a été présenté par Ismail Mai, directeur de la division de l'information du Bureau de commerce et de l'économie de Taïwan pour intensifier les relations avec l'Indonésie. Hidayat Nur Wahid a affirmé jeudi au complexe du Parlement de Jakarta, bien que les deux pays n'aient pas encore de relations diplomatiques directes, mais l'Indonésie possède un bureau d'attaché commercial à Taïwan. Pendant la réunion, Ismail Mai espère que les relations entre les deux nations pourraient être renforcées par divers moyens et de maximiser le potentiel existant. En outre, Ismail Mai a déclaré que l'Indonésie était un marché énorme en Asie, avec la majorité des musulmans. Taïwan pourrait utiliser une nouvelle façon de se rapprocher de l'Indonésie suite au nouveau gouvernement. Sous la nouvelle présidente, Taïwan veut renforcer les relations avec les pays d'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré jeudi, cité par Antara, que l'Indonésie ne peut ignorer le secteur maritime par le développement des infrastructures de transport et de faire la conservation des ressources naturelles. La construction des grands ports et des ports maritimes sont déjà commencées pour le transport individuel et la logistique. Selon le président, le gouvernement n'oublie pas le développement des infrastructures de transport dans les zones rurales, comme en Papouasie, qui commence à construire le port à Sorong à la fin de 2016. Selon le président Joko Widodo, le programme de l'autoroute de la mer pour le transport a déjà un horaire fixe, avec l'armada qui continue à ajouter. L'autoroute de la mer facilitera la circulation des personnes et de la logistique, et aussi pour faire baisser les prix de nécessités quotidiennes. Le vice-président de l'Assemblée consultative indonésienne, M. Hidayat Nur Wahid, demande au gouvernement de revoir le décret présidentiel numéro 21 l'année 2016 sur le visa gratuit parce qu'il a un impact négatif sur la sécurité, l'économie et la culture dans le pays. Hidayat Nur Wahid a souligné jeudi à Jakarta que la politique de visite sans visa vers l'Indonésie pour 169 pays non pas réciproque parce que les gens de l'Indonésie devaient faire un visa s'ils visiteraient un autre pays qui obtient un visa gratuit pour venir en Indonésie. Il espère que le gouvernement peut faire un moratoire tout en évaluant la politique d'exemption de visa. Selon lui, la politique d'exemption de visa est en mesure d'apporter beaucoup de touristes, mais ceux qui visitent seulement les routards. Le ministre par intérim de l'énergie et des ressources minérales, M. Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le gouvernement interdirait l'exportation de minerais de nickel brut. On peut exporter si les droits d'exportation sont augmentés et la société minière construit une fonderie. Selon Luhut Binsar Panjaitan, le gouvernement est en train d'étudier en détail. La politique de la relaxation de l'exportation des grains bruts ne peut pas être appliquée sur tous les articles, mais il doit être par type et voir l'état de la disponibilité en Indonésie. Actuellement, l'Indonésie a un rôle important dans le contrôle du prix du nickel dans le monde. L'investissement du nickel atteint 5 milliards de dollars américains. L'Indonésie a la capacité de produire du nickel dérivé pour former l'acier inoxydable. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici donc le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous inviter à goûter la gastronomie nommée Mangulu. La régence de Sumba East est l'une des régences de la province de Nusa Tenggara Oriental qui a une variété de produits alimentaires, entre autres Mangulu. Pour les gens de l'île de Nusa Tenggara East qui est connue comme l'île de Sandalwood, Mangulu qui a été introduit par leurs parents. En plus d'être la nourriture typique de Sumba, Mangulu a aussi une valeur historique. Lorsque la période coloniale, cet aliment sucré était très favorisé par les soldats néerlandais. Même au moment de leur entrée dans les coins de Sumba East, ils ont apporté toujours de la nourriture Mangulu parce qu'il a un goût douce en forme comme un petit dodo et facile à transporter et puissant pour résister à la faim. Mangulu est connu comme un aliment délicieux et connu pour être très simple. Les matériaux de base de Mangulu sont très faciles à trouver, tels que la banane qui a été séchée par le soleil et les arachides. Mais la procédure de la fabrication prend du temps, car il se fait par des processus naturels. De la manière traditionnelle, on utilise les mains pour former le mangulu, mais dernièrement, le mélange et la formation en utilisant une machine de broyage. Son emballage d'origine est enveloppé dans des feuilles de bananier séchées parce que les gens de Sumba croient que les feuilles de bananier ont une valeur conservatrice. Mais maintenant, les feuilles de bananier ont commencé à être remplacées par des contenants de plastique. Actuellement, Mangulu est seulement produit en petite quantité. Bien qu'ils n'utilisent des conservateurs, les industries de Mangulu peuvent durer jusqu'à 6 mois. Une boîte de Mangulu peut être vendue à un prix de 9 000 jusqu'à 10 000 rupiah. Et si vous visitez Nusa Tenggara East, Mangulu pourrait être une option pour les souvenirs. Chers amis, c'était le magazine culturel de La Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Rencontrons-nous dans l'Indonésie en couleur. Pour l'édition de ce soir, nous vous informons sur le Festival international de Pencak Silat 2016. Chers auditeurs, si vous aimez Pencak Silat ou les arts martiaux et voulez voir ce type de sport fait par d'autres nations en plus de la nation indonésienne, visitez la ville de Padang, l'ouest de Sumatra. Dans cette ville, le Festival international de Pencak Silat aura lieu du 17 au 23 octobre 2016. Chers auditeurs, Pencak Silat ou les arts martiaux, ou aussi connu sous le nom Silat, est une branche de sport martial traditionnel indonésien. Ce sport est l'héritage ancestral de l'Indonésie, parce que les arts martiaux nés de la culture de l'Indonésie, ainsi son développement est influencé par le caractère, le goût et le talent des communautés dans leurs régions respectives. En plus de l'état de la société et le caractère, des facteurs naturels peuvent aussi affecter le développement des arts martiaux, par exemple l'état des lieux, le climat, la situation sociale, etc. Cet art martial est largement connu en Indonésie, la Malaisie, Brunei et Singapour, le sud des Philippines et le sud de la Thaïlande, et même en Europe et en Amérique. Ceci est en accord avec le déploiement des différents groupes ethniques de Nusantara. Pour introduire plus ce sport, la municipalité de Padang organisera pour la première fois le Festival international de Silat FSI du 17 au 23 octobre 2016. Le président de l'Association indonésienne de pencak silat IPSI de Padang, Zulhardi Zelatif, a expliqué que le FSI serait commencé du 20 au 23 octobre. C'est parce que cette activité n'organise pas seulement les arts martiaux internationaux. Cette activité sera commencée le 17 octobre et achevée le 23 octobre. Avant l'organisation du Festival international de silat, le Festival de pencak silat au niveau régional et provincial sera organisé d'abord. Chers auditeurs, l'activité qui se déroulera du 20 au 23 octobre sera ouverte par le président général de l'Association indonésienne de pencak silat, Prabowo Subianto, au Stadium de sport de Semen Padang Société Anonyme, Sumatra Ouest. Selon le chef d'IPSI de Sumatra Ouest, Adib Al-Fikri, outre des centaines de participants nationaux, ce festival sera également animé par un certain nombre de participants provenant des pays étrangers comme le Japon, Singapour, la Malaisie, Kelantan, la Corée, les étudiants étrangers qui suivent l'éducation à l'Institut d'art de l'Indonésie ici de Padang Panjang, le Madagascar, Timor-Leste, la Lituanie, le Fidji, la Pologne, l'Italie et les États-Unis. La municipalité de Padang, l'Ouest de Sumatra, en tant qu'organisateur d'événements internationaux, espère le soutien des résidents locaux pour faire succès le Festival international de pencak silat qui se tiendra du 20 au 23 octobre 2016. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis dans le monde entier. Voici l'émission à la française de rythme de dangdut. Et ce soir, avec la chanteuse Iis Dahlia. Chers amis de Kota Kuala Dumong, voici le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique de la voix de l'Indonésie, édition de vendredi. Comme chaque vendredi, on vous présente la chanson au rythme de dangdut, le genre musical qui est très populaire en Indonésie. Ce soir, avec la chanteuse Iis Dahlia. Elle est une des grandes chanteuses en Indonésie. On peut la placer comme maestro de dangdut en Indonésie comme Roma Irama et Elvy Sukaisih. Chers amis, avant de continuer notre rencontre, écoutez d'abord les deux premières chansons de Iis Dahlia intitulées Asmara Kurindu et Beban Asmara. Bon écoute. Thank you.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, la voix de l'Indonésie, vous venez d'écouter des chansons de Iis Dahlia. Vous avez, outre de chanteuse, elle joue aussi dans certains films télévisés. Bien qu'elle soit connue comme vedette, mais elle est toujours consistante comme chanteuse de dangdut. C'est pourquoi elle se présente souvent dans le programme musical à la télévision. Elle est comme juge dans le concours des talents pour chercher des talenteurs dans la chaîne de télévision privée. Iis Dahlia a du succès de sa carrière musicale, mais elle n'oublie pas sa famille. Elle aime son mari et ses deux enfants. Chers amis, c'était l'histoire de chanteuse Iis Dahlia. Et avant de terminer, écoutez trois dernières chansons intitulé Bulan Purnama, Darah Biru et Diambang Sore. Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Tanpa setahumu, ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu.
Chers auditrices et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.